toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezard et Anne-Sophie Pierry, mais aussi Tiffaine de Roquigny et Samuel Bernard, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en ondes ce matin par YouTube Diego Aclopez. Suite de notre série donc consacrée à la fabrique du divertissement, hier nous discutions d'infotainment à la lumière des talk-shows américains, demain nous parlerons des parcs à thème et puis jeudi des serious games, ces jeux vidéo estampillés sérieux, mais ce matin donc, place au karaoké, car s'il reste un petit peu snobé en France, de moins en moins, le karaoké est une pratique culturelle de plus en plus largement plébiscitée. Alors comment est-il devenu un phénomène mondial ? Est-ce symptomatique de la globalisation des pratiques et des industries culturelles ? Conservait-il des spécificités selon les pays ? Est-ce qu'au karaoké, il ne s'agit que de chanter ? C'est la grande question qu'on va se poser ce matin.
Señoras y señores, el señor Bob Harris.
Gracias, esto no es fácil.
At the time, there was no way of knowing. Fallen leaves in the night, who can say where they're blowing?
My alone, เหมือนเดือนคู่ฟ้าไม่ลืมรถรักที่เคยฝากฝังไม่ลืมความหลังที่เคย
Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata non mi ricordo come ma niente entra dentro c'era stata vivo per lei perché mi faEra forte l'anima, vivo per lei.
Eh oui, trois extraits de Lost in Translation de Sofia Coppola, mais aussi Only God Forgives de Nicola Winding Refn, dont la scène inaugurale se déroule sous les néons sombres et inquiétants d'un karaoké thaïlandais. Et puis enfin, dans un tout autre registre, Stevie, jeune héros de Mummy de Xavier Dolan, qui bien que chantant faux, reste imperturbable face aux colibés du public. Si Mummy ne se déroule pas en Asie, mais dans une petite province de Québec, les deux autres films, eux, ont pour décor deux pays asiatiques, le Japon pour Lost in Translation et la Thaïlande donc pour Only God Forgives. Pas étonnant donc qu'on y trouve des scènes de karaoké, car là où karaoké est devenu le divertissement par excellence, pratiqué par tous, à tout âge, d'abord très ancré dans la société japonaise. En 40 ans, il s'est exporté en Corée du Sud, en Chine, aux Philippines. Alors comment cette industrie est-elle devenue un élément de culture à part entière en Asie ? De Tokyo, son berceau, à Phnom Penh, en passant par Pékin, qui sont les amateurs et les amatrices de karaoké, comment expliquer que la pratique se soit autant massifiée ces dernières décennies ? Quelle sociabilité aussi le karaoké crée-t-il ? Et que nous dit-il des pratiques culturelles contemporaines ? On ira évidemment au-delà de la seule pratique du karaoké, selon les classifications héritées de Pierre Bourdieu dans son ouvrage phare, La distinction. À une classe sociale correspondrait une culture propre, le karaoké pourrait être rapidement estampillé culture populaire, en opposition à une culture plus noble. Pour le dire vite et en caricaturant un peu là encore, les classes populaires iraient au karaoké et les élites, elles, à l'opéra. Pour autant, ces clivages culturels ont-ils toujours cours en France, ailleurs, et quelles seraient alors les nouvelles lignes de fracture ? Voilà les questions sur lesquelles on se penche ce matin à travers le prisme de ce karaoké. Pour ce faire, deux invités. D'abord Thomas Casal, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes réalisateur d'une dizaine de documentaires et notamment d'un documentaire sur le karaoké intitulé « Karaoké, la machine enchantée » qui avait été diffusé sur Arte. Merci infiniment d'être avec nous. Et puis également sur ce plateau avec nous, Philippe Coulangeon, un sociologue. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Observatoire sociologique du changement de Sciences Po, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, vous aussi, sociologie des pratiques culturelles, mais aussi un livre que vous aviez dirigé 30 ans après La distinction, justement, dont je parlais, de Pierre Bourdieu. Alors, on comprend, on voit là, avec ces extraits qu'on a entendus à l'instant, que finalement, les scènes de films dans lesquelles on retrouve du karaoké sont devenues des classiques, y compris d'ailleurs dans des films occidentaux. C'est peut-être la preuve, Thomas Casal, que le karaoké n'a plus l'image un peu ringarde qu'il avait, en tout cas en particulier chez nous, les occidentaux.
Oui, c'est en train de changer, ça a déjà changé, et je pense qu'il faut remercier Sofia Coppola pour ça, qui justement, dans son film Lost in Translation, qui se passe à Tokyo, a déringardisé un peu le karaoké, la pratique du karaoké, en en faisant quelque chose de branché, de moderne, de glamour. Et à partir de ce moment-là, on s'est intéressé au karaoké d'une autre manière, finalement.
Pourquoi vous y êtes intéressé? Pourquoi avoir fait ce documentaire sur le karaoké? C'est parce que, précisément, il incarne peut-être cette pratique culturelle mondialisée?
C'est exactement ça. J'avais envie de faire un film sur une pratique populaire qui avait aussi trait à la technologie, parce que le karaoké est aussi intimement lié au développement technologique. Et j'avais envie de faire aussi un film sur la chanson et le plaisir de chanter.
Voilà. Et ce qui est très frappant dans votre documentaire, et dans la pratique en général du karaoké, et en particulier en Asie, c'est qu'elle semble être partagée par quasiment tout le monde. Classe populaire, classe aisée, hommes, femmes, jeunes, vieux. Il y a quelque chose de stupéfiant de voir qu'en réalité, tout le monde s'y adonne. En Asie, en tout cas.
En Asie, oui, et partout dans le monde. Finalement, avec ce film, j'aurais pu faire un tour du monde. Je me suis essentiellement concentré sur l'Asie et sur l'Europe. Mais la pratique du karaoké est mondiale et tout a commencé en Asie, au Japon, aux Philippines, au début des années 70. C'est là que tout a commencé.
Philippe Coulongeon, que vous inspire cette pratique du karaoké? Parce que l'une des choses qu'on observe, c'est que, comme je le disais, finalement aujourd'hui tout le monde s'adonne au karaoké. C'est une pratique qui dépasse les clivages sociaux. Tout le monde a l'air de s'y convertir finalement. C'est vrai que ça a mis du temps, mais quand même. Comment le comprendre? Et de façon plus générale, qu'est-ce que ça vous semble révéler précisément des nouveaux clivages qui structurent les pratiques culturelles aujourd'hui?
Oui, alors tout le monde le pratique. Je nuancerai un petit peu quand même. Je pense que le point important sur ce type de pratique, c'est que je pense que la place et la signification du karaoké est sans doute pas la même selon les aires géographiques, selon les pays dans lesquels on se situe.
Je pense qu'en
France, en France, la pratique n'est quand même pas, à proprement parler, une pratique massive. Pour ce qu'on peut en connaître, à partir de la seule source dont on dispose, qui a ses limites, mais qui sont les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français du ministère de la Culture. En gros, c'est une pratique qui est déclarée avoir été pratiquée au moins une fois dans leur vie par à peu près 35% des Français, mais avoir été pratiquée récemment dans l'année précédant l'enquête, pour ce qui est de la dernière enquête, celle de 2008, à peu près 12% seulement. Donc c'est pas
une pratique massive.
Ce qui est intéressant, ceci étant dit, c'est que c'est pas une pratique massive comme peut l'être, je sais pas, moi, la sortie au cinéma ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même une pratique qui est plus répandue, effectivement, qu'un certain nombre de pratiques estampillées comme culturelles, la sortie au concert ou quelque chose comme ça. Bon. Sur l'aspect brouillage des clivages, c'est vrai que c'est une pratique pour laquelle on voit pas tellement de différence en fonction des niveaux de diplôme, des catégories sociales. En revanche, et là c'est sans doute aussi peut-être une différence avec d'autres pays, c'est un phénomène qui paraît quand même assez nettement générationnel. En fait, les taux d'incidence sont vraiment beaucoup plus élevés chez les moins de 30 ans qu'au-dessus. Alors il faudra voir dans l'avenir si effectivement ces générations-là emportent la pratique avec eux dans leur cycle de vie ou si c'est des effets de mode passagers. Mais voilà, il y a un clivage d'âge, je pense, quand même, autour d'une pratique comme celle-là.
C'est moins vrai en Asie, c'est moins vrai en Chine, c'est moins vrai au Japon, c'est beaucoup mieux partagé, mais on y reviendra. Il faut commencer par, évidemment, l'homme qui est à l'origine de tout ça. Alors, il y a évidemment des débats sur celui qui serait à l'origine du karaoké, mais en général, on parle de cet homme. Extrait justement de votre documentaire, Thomas Casal.
Voici la toute première machine. Ça, c'est une bande infinie. On la fait démarrer. Ça fait jouer la musique. J'en ai fait 11 identiques au départ. Aujourd'hui, c'est la seule qui me reste. C'est tout monté à la main. Je l'ai conçu dans ma tête et je l'ai fait faire par un spécialiste. Et la boîte par un charpentier. Et là, on a les paroles qu'on va chanter. Au début, personne n'a chanté avec. Ils étaient trop embarrassés de chanter devant les autres. Intimidés. Ceux qui s'y sont mis, par contre, ne voulaient pas lâcher le micro. Aucun morceau n'est dans sa forme d'origine. Les tonalités ont toutes été modifiées. Toutes ces modifications ont été faites exclusivement pour faire chanter. C'est ça, le karaoké. À partir de la première machine, chaque mois, j'en faisais 20 ou 50 nouvelles. 20 ans après, j'en avais environ 40 000.
Daisuke Inoue, entrepreneur japonais, donc originaire d'Osaka, qui serait l'inventeur du karaoké dans les années 70. Il avait été nommé par le Time Magazine comme l'un des Asiatiques les plus influents du siècle en 1999. Il avait même reçu un Ig Nobel en 2004, ce prix parodique du prix Nobel. Alors, il faut préciser qu'il n'a pas déposé de brevet et que donc il ne touche pas d'argent pour cette invention. Mais je voudrais comprendre, Thomas Casal, comment est-ce que, à partir de là, la pratique du karaoké va se diffuser? Du premier moment, dans un premier temps, où est-ce qu'on le pratique et comment ça se diffuse progressivement?
Alors, ce que ne dit pas Daisuke Inoue dans l'extrait que vous venez de passer, c'est que les personnes avaient du mal à se lancer au karaoké, à prendre le micro, et certaines hôtesses étaient payées pour les entraîner, en fait. Donc, il y a eu au départ cet appel-là qui a été fait. Ensuite, la pratique, c'est très rapidement développé, alors au Japon comme aux Philippines, puisqu'il y a aussi un inventeur philippin qui, à peu près à la même époque, conçoit une autre machine qui s'appelle le Singalong System, qui s'appelle Roberto del Rosario, donc a été fabricant de piano, homme d'affaires, grand séducteur, et il lance aussi cette machine à karaoké aux Philippines. Et au Japon, Daisuke Inoue fait fortune assez rapidement, mais il ne dépose pas le brevet. Donc le grand succès du karaoké est dû à un non-dépôt de brevet, en fait. Donc la machine a été copiée, modifiée, transformée par d'autres entrepreneurs. Et c'est répandu comme ça dans tous les bars du pays.
D'abord dans les petits bars, les petits snacks, et puis ensuite on va organiser des grands complexes qu'on appelle des karaoké box, et ça va devenir un secteur économique absolument fondamental. Alors au départ, les chansons qui sont utilisées dans ces premiers karaokés nippons, c'est des chansons populaires, ce qu'on appelle les NK, des chansons nostalgiques, où là, il y a toujours une très grande place à la question de l'amour. Et ce que vous dit un coach vocal nippon qui m'a semblé très intéressant dans votre documentaire, Thomas Casal, c'est que, c'est ce qu'il dit en tout cas, il n'y a pas une très grande culture du chant au Japon. C'est ce qu'il dit lui en tout cas. Alors on chante bien sûr, mais traditionnellement, le chant japonais a souvent une connotation religieuse. Et pour lui, la culture du chant, elle est venue vraiment avec le karaoké. Et au fond, et là je me tourne vers vous, Thomas Casal, on peut s'interroger sur ce qu'il entend lui par culture. Quelle est la nature au fond de cette culture à laquelle il fait référence? Est-ce que finalement, c'est pas la culture mondialisée à laquelle se serait converti ce Japon entré dans la modernité? Thomas Casal, Philippe Coulangeon, pardon.
Oui, c'est une question un petit peu compliquée. En vous écoutant, je me disais aussi que bon, alors vous indiquiez bien qu'effectivement l'inventeur de la machine n'avait pas déposé de brevet, mais quand même, on est tenté de se dire que le développement du karaoké, c'est aussi une manière d'une certaine façon de prolonger le cycle de vie de l'industrie de la musique de variété, qui par ailleurs est un peu finissante pour des raisons technologiques. Et qu'au fond, en l'exportant dans des zones éventuellement qui sont un peu éloignées. Donc oui, effectivement, le karaoké a pu participer à cette réappropriation sous des cieux fort éloignés d'un patrimoine de la culture populaire occidentale, oui.
Oui, mais d'un patrimoine culturel mondial en réalité, oui. C'est ça.
Oui. Alors, oui.
Au fond, c'est ça qui porte, c'est ça qu'on chante dans tous les karaokés du monde. C'est des chansons qui sont internationalement connues.
Oui. C'est sans doute effectivement un véhicule parmi d'autres d'une culture de masse qui a pour elle une certaine efficacité. C'est-à-dire que c'est sans doute un témoignage non négligeable du fait que la culture de masse est vraiment massive.
Ouais. Oui, et y compris une efficacité économique d'ailleurs, effectivement, parce que le karaoké, c'est un marché colossal au Japon.
Au Japon, c'est une industrie qui rapporte plus que celle du cinéma, donc c'est vraiment
Que celle du cinéma.
Oui, oui, un divertissement majeur au Japon, mais c'est une industrie comme ici nous avons l'industrie nucléaire, l'industrie des médias, avec tous les ans un livre blanc qui paraît sur l'industrie du karaoké. Donc ça, c'est un des poumons économiques du Japon en fait.
Philippe Coulangeon.
Oui, bah ça va dans le sens de ce que je disais. Je crois que c'est assez emblématique de certaines tendances du fonctionnement de l'industrie du divertissement qui consiste en quelque sorte à faire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire à prolonger encore une fois le cycle de vie de productions qui sont mortes en quelque sorte, et à continuer à les faire vivre d'une autre manière. Mais à les faire vivre, il faut pas être naïf sur ce que ça veut dire. C'est aussi à les faire vivre pour en tirer une certaine forme de profit.
Oui, un profit économique bien sûr, mais c'est aussi une pratique qui a un rôle très important dans le monde du travail, et peut-être en particulier au Japon. Nouvel extrait.
À la base, le karaoké est un endroit où on va chanter. Mais en fait, c'est avant tout un endroit où on va passer un bon moment autour de la musique. Dans un karaoké box, on peut chanter, danser, boire, manger. Et comme c'est du loisir musical, on a choisi aussi de permettre de jouer de la musique.
Et oui, ce karaoké qui se pratique beaucoup entre collègues, à tel point qu'aujourd'hui, c'est devenu un classique du monde salarial au Japon. On sort au karaoké, on mange, on boit, on peut dire des choses méchantes sur ses collègues et ses patrons, Thomas Casal. C'est un véritable exutoire dans cette société du travail qui, c'est vrai, on le dit souvent, particulièrement oppressante, aliénante au Japon.
Alors c'est une société, c'est vrai, la société japonaise un peu fermée, et le karaoké est là, et la chambre à karaoké, puisqu'on appelle ça une chambre, le karaoké se pratique en chambre, close, insonorisée, dans les grands buildings, sert de lieu d'exutoire, effectivement. Et l'origine de ces chambres vient en fait des années 80, où c'était l'époque où les chemins de fer ont été privatisés au Japon. Et le premier karaoké box, la première chambre à karaoké, a été créée dans un ancien wagon de marchandises. Parce que le karaoké peut faire beaucoup de bruit, c'est-à-dire que les immeubles au Japon et les appartements sont assez petits, les murs sont assez fins, et chanter, faire du karaoké chez soi peut gêner le voisin. Mmh. Donc c'est pour ça qu'au début des années 80, on a créé ces fameuses chambres à karaoké qui permettent d'extérioriser alors tous ces problèmes de travail, de parler à son patron d'une autre manière.
Il y a des études très sérieuses qui ont été menées au Japon qui prouvent que la pratique du karaoké aurait tendance à diminuer la production d'hormones du stress.
C'est reconnu. Chanter fait de toute manière du bien au moral. Donc voilà, il y a eu des études scientifiques assez poussées et assez justes, je pense.
Alors, continuons justement sur la science, Philippe Coulangeon. Je parlais tout à l'heure de Bourdieu, de cet ouvrage phare, La distinction, critique sociale du jugement. Il dressait une théorie des goûts et des styles de vie. Il y classait les agents sociaux à l'intérieur d'un espace social des positions relatives, pour le dire de façon très schématique. Il présentait une vision dans laquelle les plus aisés se tourner vers une culture dite savante, l'opéra, le théâtre, alors que les moins favorisés allaient vers des formes d'expression culturelle jugées moins prestigieuses et qu'on appellera donc la culture du divertissement, et d'une certaine manière le karaoké en fait partie bien sûr. Et les sociologues, Philippe Coulangeon, nous disent que aujourd'hui, les sociologues de la culture, que ces clivages-là sont plus du tout opérants. Alors depuis quand, pour quelles raisons, et puis quels sont aussi les nouveaux clivages qui sont en train de se mettre en place?
Je dirais pas que ces clivages sont plus opérants. Je pense qu'il y a d'abord, il me semble qu'il y a une lecture un petit peu fautive qui est faite généralement de Bourdieu et de la distinction. Je pense que c'est en partie lié à la manière dont Bourdieu, je crois, a été lu dans le monde anglo-saxon et en particulier aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, on fait souvent dans le monde de la sociologie de la culture, on fait souvent de Bourdieu une sorte de continuateur de Marx, ce qui est faux. Je veux dire, Bourdieu n'était pas marxiste. En fait, ce que vous avez dit au début de l'émission, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait en quelque sorte une forme de correspondance entre les classes sociales et les répertoires culturels, l'idée de culture de classe est un vocabulaire qu'on ne trouve pas sous la plume de Bourdieu. Ce qui est important, c'est ce que vous avez dit après, c'est cette dimension relative, je dirais même plutôt relationnelle de la relation à la culture. L'idée qu'au fond, les individus adoptent des pratiques et des répertoires en relation avec ceux que les autres adoptent ou rejettent. Et de ce point de vue-là, la sociologie de Bourdieu est tout à fait ouverte à l'idée que la forme que prennent les clivages peut évoluer de manière assez rapide et assez spectaculaire, même selon les endroits et selon les époques. Ce qui reste constant, c'est le fait que les groupes sociaux ont tendance à se positionner les uns par rapport aux autres, par leurs pratiques, par leurs goûts, par les répertoires avec lesquels ils sont en affinité. Mais je pense que Bourdieu n'a jamais écrit que la bourgeoisie était ontologiquement attachée à l'opéra et le prolétariat ontologiquement attaché à la musique de variété, pour employer un vocabulaire très chargé de connotation marxiste. Non, donc de ce point de vue-là, le fait que les clivages changent de forme ne veut pas dire que les clivages disparaissent. Donc effectivement, les clivages changent de forme.
On a par exemple certains sociologues, et je pense en particulier au sociologue américain Richard Peterson, qui propose une opposition entre omnivore et univore, c'est-à-dire un éclectisme culturel pour les classes supérieures et moyennes, qui serait le signe d'une certaine ouverture, d'une certaine tolérance à l'égard de toutes les formes, toutes les expressions culturelles, alors que de l'autre côté, on aurait une forme d'exclusivité des goûts dits populaires, dont le fan, c'est lui qui le dit, serait l'expression la plus absolue, la plus caricaturale. C'est ça la nouvelle opposition en matière de pratique culturelle.
Alors, c'est effectivement un clivage qui est assez nettement documenté dans un certain nombre de pays occidentaux, et même au-delà du monde occidental. C'est vrai qu'on retrouve des tendances assez convergentes qui vont effectivement tout à fait dans ce sens-là. Alors, est-ce que cette image de l'omnivore et de l'univore, ça invalide totalement la sociologie de la distinction de Bourdieu? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que non, parce qu'en réalité, d'abord, ce brouillage des frontières qu'il y a derrière l'omnivore et l'univore, c'est un brouillage qui est quand même assez asymétrique. On a d'un côté les privilégiés de la culture qui peuvent ajouter à la fréquentation de la culture savante un certain nombre d'emprunts, parfois énormément d'emprunts même à la culture populaire, mais ça marche pas dans l'autre sens. Au fond, on pourrait parler de brouillage et de disparition des clivages culturels si l'omnivorité était généralisée. Or, c'est effectivement pas ce qu'on constate. On constate bien qu'il y a un clivage qui s'organise, que, au fond, les privilégiés de la culture sont ceux qui ont la possibilité non seulement d'avoir un accès privilégié à la culture savante, mais aussi de faire des emprunts nombreux à d'autres répertoires. D'une certaine façon, le privilège culturel se marque moins aujourd'hui, sans doute, par cette proximité exclusive avec la culture savante et par ce rejet un peu radical de la culture populaire, mais se manifeste peut-être plus subtilement par une aptitude à se réapproprier les produits de la culture populaire. Il faut faire attention à ce que peut dissimuler d'ailleurs, l'amour des catégories cultivées comme vous et moi pour la culture populaire. Il peut y avoir une certaine forme de condescendance culturelle à l'époque à l'égard des répertoires culturels. De ce point de vue-là, le cas du karaoké est assez emblématique de ça. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est pas en train de devenir une pratique branchée? Alors effectivement, je pense qu'il peut y avoir des usages très ironiques, je dirais, de ce type de pratique dans des catégories très diplômées, très cultivées, qui vont s'adonner à ce type de pratique avec une forme de distance qui n'est pas forcément la même que d'autres catégories. Donc autrement dit, les clivages passent aussi par la manière de s'approprier les objets culturels davantage que par un lien avec telle catégorie d'objets plutôt que telle autre.
Thomas Casal, vous avez-vous remarqué justement cette forme de distance chez les classes, disons, les plus favorisées dans les pays dans lesquels vous avez fait ce documentaire, et je pense en particulier aux pays asiatiques comme les Philippines ou le Japon? Il y a, c'est vrai, cette distance, disons, des classes favorisées, vous l'avez
au Japon,
voir cette ironie?
Non, pas du tout. Au Japon et aux Philippines, vraiment, c'est vraiment une pratique pour tout le monde, quoi. Vraiment, il n'y a pas de classe sociale où ça coûte vraiment peu cher. L'accès est très simple. Aux Philippines, les gens font du karaoké dans la rue ou dans les supermarchés. Voilà, il n'y a pas du tout de différence de classe. Et puis, il y a une chose qui est importante aussi avec le karaoké, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et c'est très intéressant de voir ça, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de chanter juste. On est là pour s'amuser. On est là aussi pour boire, parce que c'est aussi une pratique qui est liée à l'alcool, il faut le reconnaître. Pas de règles et pas de limites finalement. On est là vraiment pour se lâcher, pour se faire du bien, pour profiter du moment ensemble.
Encore un mot, Philippe Coulanjon?
Oui, ben ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense vraiment que les pratiques n'ont pas nécessairement la même signification et la même place selon les sociétés. Je pense que ce que vous décrivez à propos du karaoké au Japon, c'est sans doute des choses qu'on pourrait transposer dans un pays comme la France sur d'autres pratiques. Je pense en particulier à certains événements sportifs qui peuvent avoir cet aspect un peu interclassiste, c'est-à-dire bon, au fond, les gens vont regarder un match de foot, Coupe d'Europe ou de Coupe du Monde, où là, effectivement, il ne va pas y avoir ce type d'usage ironique dont je viens de parler, où là, on va retrouver des choses. Je serais tenté de faire
mais
ce parallèle.
Mais vous ne l'accorderez pas au karaoké?
Bah, je pense qu'on en, pour des raisons historiques qui sont liées au fait que vous savez qu'en France
et dans les grandes villes, je pense à Paris en particulier puisque c'est là que je vis, il y a de plus en plus de bars qui proposent justement cette pratique-là, y compris des bars dits branchés. Ça commence à se développer ces derniers mois, on en a vu se multiplier.
Non, je dis pas qu'il n'y a pas une tendance de cet ordre-là. Je pense pas que ce soit un phénomène. Si on voulait aujourd'hui en France prendre l'exemple d'une pratique vraiment interclassiste, pour employer un mot un peu chargé, qui ressemblerait au karaoké japonais, je pense que c'est pas le karaoké qui viendrait directement à l'esprit. Je pense qu'on en trouverait plus d'exemples, me semble-t-il, dans le domaine des spectacles sportifs ou des loisirs sportifs. Voilà.
Quand on dit que c'est comme une autre planète, le karaoké, c'est comme un autre monde qui serait dans le monde de la musique. Nous, les chanteurs de karaoké, nous aimons ce monde, et c'est pour ça que nous y sommes. Notre objectif final est d'être, même si c'est impossible, un Freddie Mercury, une Céline Dion, une Léa Michel. En fait, nous avons nos idoles, celles auxquelles nous aimerions ressembler demain. Mais aujourd'hui, on fait des apparitions dans des programmes de télévision, des concours, on chante dans les karaokés, on croit en l'étoile qui est en chacun de nous.
Voilà, un chanteur espagnol qu'on entend dans votre documentaire, Thomas Casals, je rappelle, Karaoké, la machine enchantée, qui avait été diffusée sur Arte. Et après ce chanteur espagnol, justement, on entend dans votre documentaire un écrivain, un journaliste britannique qui tient un propos extrêmement intéressant, qui s'appelle Stephen Poole, qui a notamment écrit un ouvrage sur l'usage des mots comme armes en politique. C'est un ouvrage qui s'intitulait Unspeak. Et il dit que les gens sont aujourd'hui obsédés, voire un peu terrorisés par l'idée d'authenticité, de sincérité, d'originalité, de créativité. Et pour lui, le karaoké, il permet justement de faire voler en éclats toutes ces catégories. Avec le karaoké, on peut chanter des chansons qu'on n'a pas écrites, mais en se les réappropriant d'une certaine manière, on peut les voler juste le temps de l'interprétation. C'est une vision assez intéressante.
Bah, c'est une vision aussi qui a guidé un petit peu l'esprit du film, c'est-à-dire que moi je travaille beaucoup sur les technologies et pour moi le karaoké est une forme de machine à réalité virtuelle en fait, c'est-à-dire que le temps d'une chanson, la personne devient Céline Dion, devient Freddie Mercury et est vraiment transposée dans un autre espace. Donc c'est ce côté-là aussi, c'est pour ça que le film s'appelle Karaoké,
la machine enchantée. C'est une autre identité aussi.
Voilà, il y a cette idée de dédoublement, de réappropriation, effectivement, qui est très importante. Et il y a cette idée de machine de réalité virtuelle qui arrive à créer une machine, une réalité parallèle, quoi, finalement, dans laquelle le chanteur se sent à l'aise et quelque part se retrouve lui-même. Grâce aux paroles de la chanson.
Philippe Coulangeon, sur cette transposition de réalité, sur cette...
Oui, ça m'inspire pas grand chose parce que encore une fois, c'est pas une pratique que j'ai spécifiquement étudiée. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure tout ça s'inscrit dans une tendance plus large qu'on observe, qui est le l'attrait pour les pratiques culturelles, je dirais, actives. C'est-à-dire qu'il y a quand même c'est une tendance quand même très, très documentée là encore en France et ailleurs, c'est-à-dire le fait de pratiquer la musique plutôt que l'écouter, d'écrire plutôt que de lire, enfin bon, et je pense qu'effectivement on est dans un contexte sans doute aussi porté par un certain nombre de changements technologiques qui favorisent l'engouement pour ce rapport actif au répertoire culturel. Le karaoké en est sans doute une expression parmi d'autres.
Thomas Casals, il y a aussi un élément que vous traitez dans votre documentaire qui m'a paru intéressant. Réciter un discours qu'on n'a pas écrit en lisant un prompteur, c'est ce qu'on fait quand on fait du karaoké, en l'occurrence on le chante, mais on peut aussi lire devant un public, devant une audience. Les hommes politiques finalement font ça.
Bah, les hommes
quand
politiques aujourd'hui
discours,
sont...
Quand Barack Obama a son petit écran devant lui,
bien sûr.
Finalement il fait du
karaoké. Mais les hommes et les femmes politiques sont des pop stars aujourd'hui. Donc le discours politique est également une forme de karaoké, puisque les paroles sont écrites par quelqu'un d'autre, souvent, et l'interprète lit les paroles qui défilent devant lui. Donc on peut parler un peu de karaoké politique, ou de politaoké.
D'ailleurs, il y a une initiative artistique qui est très intéressante que vous mentionnez dans votre documentaire, qui est une artiste américaine qui s'appelle Diana Arce et qui a organisé un projet dans lequel les spectateurs reprennent les discours politiques présélectionnés de Barack Obama, de Benjamin Netanyahu, et ça permet finalement au fond de détacher le fond du discours de l'image du politicien.
Oui, ce qui l'amuse beaucoup aussi, cet artiste-là, c'est de faire interpréter des discours qui ne correspondent pas du tout, qui vont à l'encontre des pensées politiques de la personne qui le lit. Oui. Voilà. Donc ça crée une sorte de choc comme ça, linguistique, qui est assez marrant, et le spectacle est assez intéressant à voir.
Ah, Philippe Coulangeon, ça vous inspire quand même?
Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Je découvre effectivement des possibilités auxquelles j'avais pas songé concernant le karaoké. Et ça m'amènera à lire l'actualité politique différemment, sans doute.
Donc, on parle toute cette semaine de la fabrique du divertissement, des snacks de Tokyo, box de Pékin, le karaoké comme phénomène social. On est avec Thomas Casal, qui a donc réalisé ce documentaire Karaoké, la machine enchantée, mais aussi Philippe Coulangeon, sociologue, qui a écrit notamment Sociologie des pratiques culturelles. On va prendre la direction de la Chine.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nouvel extrait de film The World de Jia Zhangke, avec Tao qui gagne sa vie comme danseuse de revue dans un parc d'attractions. The World, un vaste espace fait de répliques de monuments célèbres du monde entier. Jia Zhangke filmait dans ce long métrage la modernité, cette Chine mondialisée, ouverte sur le monde. On est dans les années 2000, qui est un moment par ailleurs assez décisif pour l'industrie cinématographique chinoise, puisqu'on est en train progressivement de libéraliser les choses. On a de moins en moins ce cinéma vu comme un outil de propagande. On va retrouver Emmanuel Linco, qui est historien de la culture, professeur à l'Institut catholique de Paris. Emmanuel Linco, vos travaux portent donc sur la culture chinoise contemporaine, et en l'occurrence le karaoké, on le disait, il tient une place de choix. Ce karaoké venu du Japon, qui s'est popularisé très vite en Chine, c'est les années 90, où il s'est vraiment diffusé massivement, dans une période où le pays aussi, en plein essor économique et social, s'ouvre sur l'extérieur. Finalement, ce karaoké, il incarne parfaitement cette plongée de la Chine dans la modernité.
Oui, absolument. Je dirais même pour les Japonais, c'est toujours avec ironie une façon de dire qu'ils ont peut-être perdu la guerre, mais certainement pas la bataille. Et en tout cas, cette culture japonaise, d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue de l'inventivité et des formes de convivialité que crée le karaoké, a essaimé partout en Asie sinisée, et même au-delà, jusqu'au Cambodge et d'autres régions périphériques. Donc c'est tout à fait intéressant de voir cela. Et la référence à Jia Zhangke, effectivement, n'est pas vaine, parce que, sociologiquement parlant, surtout dans des sociétés aussi corsetées, aussi muselées par la culture néo-confucéenne, pour aller vite, le fait de pouvoir s'exprimer individuellement devant un écran permet également de se singulariser et d'inventer par là même sa propre individualité. Si vous voulez, c'est à la fois un grand moment d'exutoire social, de convivialité, on en reparlera sans doute aussi, mais aussi d'expression fortement individualisée.
On va y revenir, mais juste avant, on parle de cette Chine mondialisée. En réalité, on a deux Chines aujourd'hui. On a cette Chine moderne et puis on a aussi cette Chine qui a peut-être un peu plus de mal, qui est un peu plus lente aussi à se développer. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit justement à travers le karaoké? Pour poser la question autrement, est-ce que finalement on trouve de la pratique du karaoké partout en Chine, dans les grandes villes comme dans les petits villages de campagne, ou est-ce qu'on observe quand même une sorte de fracture territoriale?
Alors la fracture territoriale, évidemment, elle existe, mais vous trouverez des karaokés partout, y compris au fin fond du Tibet ou du Xinjiang, etc., même auprès de populations qui ne sont pas forcément Han, qui ne sont pas forcément de culture chinoise, et qui souscrivent justement à cette forme de convivialité. Donc le karaoké est absolument partout. En revanche, ce qui diffère, c'est le lieu même où l'on peut s'exprimer autour d'un karaoké. Et là, de ce point de vue-là, effectivement, il y a des formes de sociabilité, de ritualisation également de l'exercice qui diffèrent fondamentalement d'une région à l'autre, voire d'un quartier à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des malls commerciaux, par exemple, où vous avez des lieux très sélects, très huppés, où des VIPs vont se retrouver, vont parfois partager d'ailleurs exactement la même chanson populaire qui sera chantonnée également autour du même karaoké à 3000 km de là, mais en même temps le lieu, le cadre est fondamentalement différent, ainsi que les services qui sont proposés.
Ça veut dire, Emmanuel Linco, si je vous entends bien, qu'en réalité en Chine aujourd'hui, tout le monde fait du karaoké, que ce soit les classes populaires jusqu'aux plus aisés, mais que chacun d'une certaine manière a son lieu dédié et qu'on ne se mélange pas réellement.
Ah, on ne se mélange absolument pas. C'est même, je dirais, l'une des sociétés qui devient avec le Japon des plus ségrégées, des plus discriminées, où toute forme de distinction sociale, y compris par la culture du vêtement, mais aussi la posture sociale ou les goûts, quels qu'ils soient, culinaires, populaires, etc., ne sont absolument pas systématiquement partagées. C'est donc paradoxal ce que je vous dis là, mais il y a effectivement une sorte de ségrégation cultivée, encore une fois, qui me paraît extrêmement importante et qui est liée à un phénomène, je dirais, assez simple à comprendre, c'est-à-dire que cette Chine, qui il y a encore 40 ans était misérable, essaye de rattraper par tous les moyens le temps perdu. Et rattraper le temps perdu, c'est une façon d'utiliser l'argent soit d'une manière je dirais complètement ostentatoire, délirante et tout ce que vous voulez, soit une façon justement de créer de l'écart dans une société, ne l'oublions pas, où les densités humaines sont parmi les plus importantes du monde. C'est-à-dire que vous pouvez avoir jusqu'à 8000 habitants au kilomètre carré. Donc il faut absolument créer non seulement un entre-soi, mais aussi des murs symboliques, une sorte de d'étanchéité symbolique entre les différents cercles de la société, pour ne pas se mélanger.
Si j'entends bien, le karaoké, c'est l'un des symptômes de cette ségrégation cultivée. C'est une formule que je retiens. Emmanuel Linco, le karaoké, visiblement, c'est l'une des pratiques que l'on fait beaucoup entre collègues. Et ça permet, visiblement, il y a même des salons, j'ai appris ça en préparant cette émission, il y a des salons qui sont réservés, dédiés aux entrepreneurs qui peuvent justement pousser la chansonnette et en même temps signer quelques contrats.
Alors c'est fondamental et c'est là où intervient justement la dimension rituelle de l'exercice. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que dans ces sociétés déjà post-industrielles, le temps passé au travail est extrêmement dense, extrêmement important. Et donc le karaoké est symboliquement cette sorte de troisième lieu qui se trouve à mi-chemin entre le lieu de l'intime et de la famille relativement préservé et le lieu justement du travail. Et donc ce troisième lieu est un lieu de convivialité où on se juge et où on se jauge également. C'est un lieu où on va pouvoir également parler d'homme à homme et pratiquement d'égal à égal avec son directeur d'entreprise. Et tous les expatriés français, européens vous le diront, c'est le passage obligé aussi pour qui veut faire des affaires au Japon ou en Chine ou dans le monde sinisé d'une manière générale, où l'on va vous tester sur votre façon d'être, sur cette manière également très particulière de créer à la fois une sorte d'empathie collective, mais en même temps de vous distinguer sans être non plus à la marge, vous voyez. Donc c'est un exercice également, il faut bien le dire, extrêmement périlleux, qui a ses codes, qui a ses étiquettes, et chacun y souscrit naturellement aussi.
Vous parlez de rituels. J'imagine que avant l'émergence du karaoké, il y avait peut-être des choses qui étaient un peu comparables. Il existait une forme, alors je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais de, à la fois de communion, mais aussi une forme de mise en compétition.
Cela a toujours existé, y compris évidemment en Occident. Hein. C'est notamment l'art de la table et le savoir-vivre autour de la table. Mais là encore aussi, souvent d'une manière très ségrégée entre les sexes par ailleurs. Mmh. Et c'est vrai encore, cela se poursuit dans le cadre même du karaoké. Donc quand les hommes vont chanter, c'est ensemble et accompagnés en cela par des hôtesses, donc des filles dont c'est le métier et qui sont spécialisées et qui peuvent aller plus loin évidemment. Mmh. Idem évidemment pour les femmes. Donc très ségrégué, je pense que c'est la poursuite en définitive ou c'est la survivance de formes de convivialité qui certes ont toujours existé, mais qui permettent d'une manière peut-être plus exacerbée et évidemment d'une manière technologiquement plus modernisée à l'individu de s'exprimer en tant que tel. C'est un exercice à la fois d'exutoire, mais aussi d'autocontrôle social. C'est cet équilibre, souvent encore une fois périlleux sur le plan social, qu'il faut savoir maîtriser.
Toute dernière question, Emmanuel Linco. J'ai vu un nouveau phénomène qui est en train de se développer du côté de la Chine, ce sont les mini-karaokés. Désormais, on peut retrouver des toutes petites cabines, environ 2 mètres carrés, avec, vous avez un grand écran tactile, 2 tabourets, des casques d'écoute, un microphone. C'est souvent dans des centres commerciaux. Et on peut venir seul ou à deux faire sa petite session musicale. Il y a plusieurs sociétés qui ont développé cette offre. Il y a YouSing, MiniKTV, Minika, il y en a probablement d'autres. Que vous inspire ce phénomène des mini-karaokés? Est-ce qu'on est là encore dans ce que vous nous disiez tout à l'heure? C'est-à-dire, on va encore plus loin dans la libéralisation du divertissement, mais aussi dans l'individualisation?
Alors, c'est une forme, bien sûr, d'individualisation. C'est une façon aussi de recréer du lien social dans une société qui longtemps, et c'est encore le cas, a réfuté toute forme de contrainte sociale du fait justement de ce précédent historique qui a été, il n'y a pas encore si longtemps, rappelons-le, il y a 40 ans, la révolution culturelle, où au nom d'un égalitarisme communiste, il n'y avait pas de propriété, évidemment matérielle, mais non plus de propriété de soi, de propriété de son corps. Il n'y avait pas de possibilités, ni même de droits, évidemment, que dis-je, sur le plan juridique, c'était absolument inconcevable, d'exprimer sa singularité en tant que voix, en tant que personne. Bon. Et donc, j'y vois finalement le contrebalancier, si vous voulez, d'une tendance qui a laminé véritablement les deux générations précédentes. Et là, encore une fois, c'est une façon pour les individus de s'exprimer et de prendre une revanche sociale.
Merci beaucoup Emmanuel Linco, historien culturel de la Chine, professeur à l'Institut catholique de Paris. Et je rappellerai pour nos auditeurs, auteur d'Esquisses de Chine qui était paru chez Belin, mais aussi avec Barthélémy Courmont, La Chine au défi. Réaction peut-être Thomas Casal, au propos d'Emmanuel Linco, du mode de diffusion, mais aussi des effets de ce karaoké sur la société chinoise.
Le lieu est primordial, comme ça a été dit. Donc au Japon, nous avons ces chambres à karaoké. En Chine, il y a beaucoup de bars et de lieux aussi, un peu comme en Japon. Aux Philippines, c'est une pratique qui se fait vraiment partout, même dans la rue. Ce qui est intéressant peut-être, et la problématique de la France, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de vrai lieu pour pratiquer le karaoké. Les bars changent souvent de propriétaire, restent ouverts finalement assez peu tard aussi. C'est quelque chose qui est important, puisqu'au Japon, les immeubles à karaoké sont ouverts 24 heures sur 24. Mmh. Donc, et permettent par exemple à certains travailleurs, lorsqu'ils ont raté le dernier train, d'aller chanter, d'aller boire et puis d'aller dormir aussi. Passer la nuit, ce qui coûte moins cher qu'un hôtel. Donc c'est sûr que l'espace karaoké est important.
Philippe Coulangeon, Emmanuel Linco nous disait il existe une ségrégation cultivée, c'est l'expression qu'il utilisait, dans les karaokés chinois, le lieu d'une certaine manière organise aussi la pratique. Si l'on regarde ce qui se passe en France, est-ce que précisément, si l'on ne pratique pas beaucoup ce karaoké, s'il n'est pas très développé, est-ce que c'est pas précisément parce qu'il n'existe pas de lieu pour organiser cette ségrégation sociale, ségrégation cultivée, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Linco?
Bon, j'ai pas de réponse précise à cette question. En revanche, je trouve extrêmement intéressant ce paradoxe qui est souligné par Emmanuel Linco autour de cette idée de ségrégation cultivée. C'est-à-dire qu'au fond, et ça revient à un point qu'on a évoqué un peu plus tôt dans cette émission, au fond, le partage d'une culture ou d'une pratique commune peut aller de pair avec des formes de sociabilité, avec des formes de clôture sociale assez fortes. Et ça, je pense que c'est effectivement un point très important qui est peut-être à l'origine d'un certain nombre de confusions que l'on fait lorsqu'on observe des pratiques qui sont effectivement en apparence assez largement partagées dans la société, et pas simplement en apparence, mais qui ne sont pas exclusives du fait que les mêmes pratiques peuvent donner lieu à des formes extrêmement ségrégées, pour reprendre reprendre le terme de d'Emmanuel Linco, de conservation. Autrement dit, pour le dire un peu vite, et c'est pas parce que tout le monde consomme la même musique que les différences entre les groupes sociaux ont disparu s'ils ne la consomment pas dans les mêmes conditions et dans les mêmes lieux. Je crois que les questions de ségrégation de lieux de résidence, de lieux de loisirs, sont effectivement extrêmement prégnantes.
Thomas Casal, encore un tout petit peu peut-être sur les Philippines dont on n'a pas beaucoup parlé. On avait prévu des extraits et plein de questions, mais il y a peut-être un mot sur lequel je voudrais, un thème sur lequel je voudrais vous entendre, c'est que là aussi aux Philippines, c'est une pratique extrêmement répandue, c'est quelque chose de quasiment religieux, il y a une forme de dévotion, un peu d'élan mystique pour cette culture populaire du quotidien. Et alors j'ai appris une chose, c'est qu'il y a une chanson qu'on ne chante pas aux Philippines, c'est My Way.
On évite de chanter My Way dans les karaokés philippins.
Expliquez-nous pourquoi.
Ça peut être dangereux, en fait. Entre 2006 et 2010, aux Philippines, et en particulier à Manille, il y a eu une vague d'assassinats dans les karaokés, car souvent le soir, alors que la nuit se prolonge, la dernière chanson à être chantée dans les bars philippins, c'est My Way. Pourquoi ? Parce que My Way, c'est Frank Sinatra, et la culture philippine est assez machiste. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien chanter à la fin de la soirée. Et les groupes présents dans le karaoké se font un peu compétition, et chacun à leur tour chante My Way. Alors malheur à ceux qui ne chantent pas bien My Way, ils peuvent se prendre un coup de revolver ou un coup de couteau.
Ouais, il y a eu quelques années où il y a effectivement eu beaucoup de bagarres avec des morts à la clé.
On appelle ça le My Way Killing.
Et du coup, maintenant, on ne chante plus My Way.
On évite de chanter My Way. On chante My Way chez soi.
Philippe Coulangeon, vous chantez My Way chez vous ?
Non, je ne chante pas My Way chez moi. Non.
Alors, on a vu avec Emmanuel Linco que les boxes de karaoké en Chine sont au-delà d'un lieu de chant, des lieux où se négocient par exemple des contrats professionnels. Ça peut aussi être des lieux de rencontres matrimoniales, voire des lieux de passe parfois. Prenons maintenant la direction du Cambodge avec Pascal Ankar-Petitet, docteur en anthropologie, qui travaille à l'Institut de recherche pour le développement au Laos. Elle nous parle du Cambodge où, dans un contexte alliant paupérisation et forte pression sociale, des femmes venant de milieux précaires deviennent hôtesses dans des bars karaokés, ce qui signifie pour certaines d'entre elles devenir travailleuses du sexe. Pascal Ankar-Petitet a eu l'occasion justement de les rencontrer, de les interroger. Elle est au micro d'Anne-Sophie Piri.
Finalement, les femmes que j'avais rencontrées dans des karaokés, il y avait des femmes qui avant avaient travaillé aussi à l'usine et qui avaient eu une opportunité de finalement d'être recrutées dans un karaoké. Et elles se retrouvent dans un lieu où finalement, selon leur propre discours, le travail est beaucoup moins pénible que dans une usine, beaucoup mieux rémunérée. Et finalement, c'est aussi parfois pour certaines femmes une façon d'accéder donc à certains biens de consommation auxquels elles n'auraient pas accès, un certain statut, puisqu'après, quand elles rentrent dans leur village bien maquillées, bien habillées, avec un beau téléphone, elles acquièrent un statut aussi dans leur village, avec des parents et des familles, par exemple, qui vont un peu fermer les yeux par rapport à cette situation, puisqu'au final, ça elle arrange un peu tout le monde. Et puis, il y a aussi des vraies stratégies matrimoniales qui se jouent dans les karaokés, et ça, c'est pas négligeable, parce que ça permet à ces femmes, finalement, d'être en contact avec des hommes de certains milieux sociaux qu'elles n'auraient pas rencontrés en dehors. Je pense que ça, c'est essentiel dans ce qui se joue sur place. Et puis, bien sûr, après, il y a l'expérience. Hein, c'est tout des jeunes femmes qui se retrouvent à être payées pour faire la fête. Là, dans les lieux où j'ai enquêté, c'était des karaokés très officiels, en ville, avec une clientèle plutôt de la classe moyenne et riche. Donc, on ne peut pas faire une généralisation, hein, bien sûr, hein, sur ce qui se passe dans les milieux prostitutionnels au Cambodge. Mais en tout cas, finalement, ça balance cette question, cette vision de cette femme victimaire. En fait, ces femmes, elles sont pas forcément victimes. Elles prennent finalement dans un éventail d'opportunités un peu réduit par rapport à leurs origines sociales, finalement une voie qui est la plus enviable selon leurs propres perspectives. Et puis du coup, dans ces karaokés, il y a les filles qui vont vendre de la bière, celles qui vont s'asseoir sur les genoux et embrasser, et puis celles qui éventuellement vont partir avec un client et avec où ça se fait finalement de manière très cadrée avec leur patron qui va s'assurer que le client va bien s'occuper de la personne, qu'elle sera rémunérée, etc. Donc on est finalement dans un système où il y a un encadrement, en tout cas. On n'est pas du tout dans les images qu'on a pu voir hein, parfois, qui ont été véhiculées sur la prostitution au Cambodge, dans des lieux absolument glauques et des abattages, et qui existent aussi. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc je pense que c'est important de bien montrer qu'il n'y a pas d'image homogène par rapport à cette question.
Pas d'image homogène, nous dit Pascal Encarpetitet, ce karaoké entre risque et opportunité, d'une certaine manière, pour ces femmes qui travaillent dans les karaokés au Cambodge. Pascal Encarpetitet qui était au micro d'Anne-Sophie Pierry. Alors lequel se lance? Qui est-ce qui chante? Thomas Casal? Philippe Coudrangeon?
Non, moi je ne chante pas.
Ni l'un ni l'autre.
Alors comme souvent au karaoké, on connaît l'air, mais les paroles sont pas forcément faciles à remémorer et à retenir.
Il faudra les préparer.
Et d'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut donner à ceux qui veulent pratiquer le karaoké, c'est vraiment de se lancer dans une chanson qu'ils connaissent très bien. Parce que souvent, on démarre et puis après, il y a comme un petit essoufflement.
Merci beaucoup Thomas Casal. Je rappellerai votre documentaire « Karaoké, la machine enchantée » qui avait été diffusé sur Arte. Merci beaucoup Philippe Coulangeon de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Je rappellerai deux de vos ouvrages, « Sociologie des pratiques culturelles » qui était paru à la découverte en 2010, mais aussi que vous aviez dirigé 30 ans après la distinction de Pierre Bourdieu. Vous êtes bourdieusien, on l'a bien compris, vous défendez très...
Je dirais pas exactement ça, mais
ah bon,
on a plus le temps.
Alors il faudra refaire une émission.
On fera une émission.
En tout cas, c'était à la découverte en 2013. Merci infiniment.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous nous parlez aujourd'hui des Allemands, de la culture allemande. Vous avez commencé à nous présenter hier le livre publié par le grand sociologue allemand Norbert Elias, un an avant sa mort, intitulé « Les Allemands ». Alors c'est pas vraiment un livre d'histoire, de quoi est-il question? De l'esprit des peuples?
Non, rassurez-vous, Elias était éloigné de ces théories qui essentialisent les cultures à force d'en chercher les invariants. Lorsqu'il écrit l'expression « caractère national », il y ajoute des guillemets. Ce qui l'intéresse, c'est l'habitus, au sens d'ensemble de normes devenues pour les individus d'une collectivité comme une seconde nature. Et lorsqu'il étudie l'habitus national des Allemands, il précise aussitôt que celui-ci ne lui apparaît pas comme biologiquement déterminé, mais évolutif. Et s'il fait parfois appel à des comparaisons entre les cultures européennes, notamment entre l'allemande et la britannique ou la française, c'est en soulignant chaque fois qu'il ne croit pas à des caractéristiques ethniques. Mais il ne s'interdit pas non plus de voir dans les cultures nationales le produit de leur histoire. Alors ce qui serait spécifique au cas allemand, ce serait, je le disais hier, la défaite politique de la bourgeoisie face aux aristocrates au XIXe siècle. Cette aristocratie n'a pas été chassée et en partie exterminée comme en France. Elle est demeurée une caste fermée, contrairement à la gentry britannique qui s'est embourgeoisée. La société allemande est demeurée une société d'État, presque de caste, quand les sociétés occidentales étaient devenues des sociétés de classe. Appauvrie, cette noblesse allemande a compensé son sentiment d'insécurité par une obsession de la pureté de son lignage. Le nazisme aurait en quelque sorte popularisé cette idéologie en la transposant au peuple allemand tout entier. De même que les aristocrates, de par la pureté de leur sang, avaient vocation à dominer les Allemands, eh bien ceux-ci auraient constitué une nouvelle aristocratie européenne destinée à vaincre et à soumettre les autres peuples.
Et quelles sont les spécificités justement relevées par Norbert Elias de cette culture allemande sous influence aristocratique?
Très significatif, l'usage courant du duel. Norbert Elias consacre à ce sujet un chapitre passionnant. Jusqu'à la guerre de 14, cette coutume persista en Allemagne. Donner satisfaction d'une offense perçue était le privilège des membres de la bonne société. Et les duels faisaient partie du rituel des associations estudiantines. Le duel ressortit manifestement de l'ancien code guerrier, en vertu duquel le plus habile au maniement des armes mérite sa supériorité. Mais il manifeste aussi le privilège détenu par une élite sociale de contester à l'État le monopole qu'il est censé exercer sur l'usage de la violence. Comme écrit Elias, le code d'honneur de la noblesse avait priorité sur les lois de l'État. Mais la différence entre le duel et la bagarre de rue est révélatrice. Le duel constitue un affrontement ritualisé. Son déroulement exige une stricte maîtrise de soi et en particulier, il proscrit l'expression de sentiments hostiles. C'est un affrontement entre hommes du même monde, appartenant aux mêmes castes. Alors le problème de l'Allemagne wilhelmienne, c'est que l'éthos guerrier, qui était celui des officiers issus de la noblesse, a fini par donner le ton à l'ensemble de la société. Au fond, écrit Elias, les gens étaient éduqués, dès qu'ils se trouvaient face à un plus faible, à frapper plus fort pour lui faire sentir sans équivoque la supériorité qu'on avait sur lui. La faiblesse était méprisable. Alors les nazis ont hérité de cette culture et ils l'ont poussée jusqu'à la caricature. L'évolution de ces sociétés estudiantines est très révélatrice. Depuis l'occupation napoléonienne jusqu'à la victoire sur la France de 1870, elles avaient été dominées par une forme de patriotisme libéral. Leur rêve était celui de la révolution de 1848, la Grande Allemagne incluant les régions germaniques de l'Autriche. Or l'unité nationale, comme on sait, se fit par la Prusse et par la voie de la guerre. Et le chancelier Bismarck opta pour la petite Allemagne. Et c'est la caste des officiers qui put s'attribuer ainsi le mérite de l'unification du pays. À partir de ce moment, Elias y revient à plusieurs reprises, la morale kantienne fut considérée comme une rêverie de bourgeois libéraux, son impératif catégorique comme le canon moral des classes moyennes. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle postule l'universalité des règles qu'elle édicte, et donc l'égalité de statut entre toutes les classes sociales, impensable dans une société de caste. La seconde, c'est qu'elle accorde trop de crédit à la conscience individuelle et pas assez au contrôle par les pairs. Or, la bonne société wilhelmienne exigeait de ses membres, je cite, un maintien rigoureux sous le regard des autres, une forte contrainte personnelle. Et c'est d'ailleurs pourquoi les Français jugeaient les Allemands rigides et parlaient de leur formalisme ostentatoire. Une éthique de la dureté envers soi et envers les autres se développa en particulier au sein de ces fameuses associations estudiantines. Porter une balafre au visage ou sur le crâne faisait partie des signes d'appartenance souhaitables. C'est pourquoi on y organisait d'ailleurs, à l'usage des nouveaux venus, des bisus, des rencontres imposées qui avaient pour but de tester leur courage. Qui se montrait faible ne valait rien. Mais cette classe supérieure, quoique très arrogante, sentait monter face à elle, à la veille de la Grande Guerre, le mouvement ouvrier. Se sentant menacée, elle était prête, dit Elias, à combattre jusqu'au bout pour défendre ses positions jusqu'à une fin cruelle.
Merci beaucoup Brice Couturier. Donc je rappellerai pour les auditeurs donc ce livre, dernière traduction, dernière parution du dernier livre de Norbert Elias chez Gallimard, intitulé tout simplement Les Allemands. Merci beaucoup Brice Couturier, on poursuivra demain. Dans un très court instant sur France Culture, vous retrouvez Olivia Gesbert et La Grande Table.